ou islam émancipateur en regard de judaïsme, christianisme ou islam réactionnaire, ça montre que l'antagonisme fondamental est celui d'une position émancipatrice en regard d'une position réactive.
Je crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon.
Camilo Torres, prêtre colombien.
Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir.
Février 1965.
Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente.
Éric Hazan, on parlait de ce 20e siècle, effectivement, où le monde juif, ou des intellectuels juifs, ou des militants juifs se sont trouvés très souvent à la pointe des mouvements émancipateurs, on va dire ça comme ça. Est-ce que ces gens-là étaient aussi imprégnés et imbus qui vont se gré de la tradition religieuse juive?
Je pense pas, enfin... Non, je pense.
Et quel lien on fait entre cette tradition, cette culture, et puis voilà les mouvements révolutionnaires, émancipateurs qu'on a pu voir en Europe.
Je suis pas convaincu que les juifs qui étaient du côté de la révolution étaient des juifs qui venaient du côté de la religion. Je pense même d'ailleurs qu'à l'intérieur. Si tant est qu'il existait ici et là des choses qui ressemblaient à des communautés juives, je pense qu'ils étaient du côté de ceux qui rejetaient la religion. Je pense que... Il y a une très belle formule dans le livre de Segré, c'est l'opposition entre amour obéissant et compréhension autonome. Amour obéissant, c'est le respect de la loi divine. Et la compréhension autonome, c'est la conduite d'une vie... par la raison. Cet antagonisme-là, et évidemment on voit bien de quel côté se trouve Spinoza, et je pense que les révolutionnaires, disons Trotsky, je ne sais pas s'il avait eu une éducation religieuse, je ne sais pas bien, je ne connais pas bien son enfance et sa jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était vraiment, vraiment, vraiment du côté de la compréhension autonome. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ce qui est intéressant, Yvan Segré, dans ce bouquin et dans votre approche, on va venir à ces deux mots-là que vous utilisez, c'est « juif » et « ouvrier », on va venir à ça. Mais si on dit le mot « juif » aujourd'hui, chez nous, on va penser Israël, tout de suite, et on va penser Shoah. On ne va pas penser à cette culture, à ces philosophes, au judaïsme. On ne va pas penser au judaïsme d'abord.
Une fois qu'une tradition de pensée prend la forme d'un État constitué... Alors, cet état constitué a pour effet d'écraser cette tradition de pensée. C'est vrai également à l'époque du socialisme soviétique, le mot communiste ne pouvait avoir d'autre écho que celui de cette force étatique constituée, qui était une force dogmatique. On revient à ces catégories-là parce que je crois qu'elles sont fondamentales. Le dogmatisme, on le trouve dans la religion, on le trouve aussi sous sa forme stalinienne, on le trouve de multiples manières. C'est toujours une manière d'écraser une tradition vivante, une tradition émancipatrice, d'en faire un corps de doctrine inamovible, qui très vite va s'associer à une forme de police. Bon, de manière plus ou moins violente, plus ou moins radicale dans l'histoire. Donc l'État d'Israël va avoir pour effet d'écraser et de faire de ces textes des fonctions gouvernementales, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la Shoah, c'est la question de ce traumatisme historique et qui va nourrir beaucoup de choses très complexes, très sinueuses. Ce qui est intéressant dans l'histoire de ce livre, c'est qu'avec Éric Hazan, nous étions partis donc sur ce projet, au fond, de casser en fait le mot juif en introduisant cet antagonisme entre judaïsme émancipateur et judaïsme réactionnaire. Et comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le christianisme, dans l'islam et ailleurs. Et nous avions le projet de travailler sur Spinoza parce que c'est une figure singulière très forte. Et dans le cadre de ce projet d'écriture, il s'est trouvé qu'il y a eu la sortie du livre de Jean-Claude Milner, « Le sage trompeur », sur Spinoza, et dans lequel Jean-Claude Milner, au fond, soutenait la thèse à partir de l'analyse d'un texte de Spinoza que le sens de ce texte, c'est une théorie de ce qu'il appelle la persécution parfaite des Juifs. C'est la doctrine qu'il prête à Spinoza. Que signifie la persécution parfaite des Juifs?